J'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fume du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Oh, à bas les gens qui bossent, c'est que de la racaille. Voilà. J'avais envie de commencer
c'est,
avec ça.
C'est pire que de la racaille.
Ouais, voilà, c'était donc une journée de grève aujourd'hui, donc il fallait que je commence quand même avec autre chose que union, action, autogestion, même si on a chanté ça aujourd'hui. Encore et encore et encore et comme toujours, mais voilà,
début, d'accord.
Voilà, je trouvais ça plus rigolo, donc vous aurez reconnu qui c'est qui chante ça? Non, vous avez reconnu?
Didier Super.
Eh oui, bien sûr. Voilà, donc on va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler évidemment de manifestations de grève, de menteurs aussi, en tout genre avec Laurent. Nous parlons de Jamais sans toi, puisque la lutte elle continue. Nous aurons des lyonnaiseries, parce qu'il y a du Gérard dans l'actualité. Et puis c'est les élections, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à discuter. Nous parlons anti-vaccin, et puis nous aurons un gros sujet, parce qu'on a beaucoup aimé. On va vous parler cinéma ce soir, on va vous parler de It Must Be Heaven, réalisé par Elia Souleymane. Voilà.
Un palestinien de Nazareth. Comme Jésus.
Voilà, ça nous ferait rire.
Il faut avoir vu le film pour savoir.
Mais on en parlera longuement et Laurent essaiera de ne pas vous dévoiler tout le film non plus. Parce que vous savez que si vous avez l'habitude de nous écouter, que c'est sa grande habitude de tout vous raconter. Mais c'est parce qu'il prend plaisir. En tout cas, pour moi, j'ai noté quand même une vraie info cette semaine.
Avant les manifs.
Ah mais même, je pense que ça va rester quand même l'info de la semaine. C'est toi qui m'as en fait parlé de ça au début quand même.
Je trouvais ça drôle.
Ouais, et en fait, parce que c'est il faut que j'arrête de dire en fait ce soir. Donc nous allons redescendre et nous calmer dans le micro. Une vraie information qui a été partagée par la presse nationale et pas juste locale, parce que ça s'est passé à Lyon. On va vous parler dans deux secondes, juste, je veux pas vous en parler bien plus de ça, de Osamu Tsukamoto.
Dont on n'avait jamais entendu parler, bien évidemment, avant le début de semaine. Avant voilà. Lundi soir. Hein.
Il a été élu champion du monde de pâté croûte 2019.
Puisqu'à Lyon, il y avait le championnat du monde, c'est né d'une blague, en fait, ça aurait jamais dû exister, ce truc. Et voilà, il y a un championnat du monde de pâté croûte à Lyon. Et c'est un japonais qui a gagné. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Et c'est très drôle.
Et alors donc, il y a polémique pour savoir si on dit pâté en croûte ou pâté croûte. C'est très marrant.
Ah ouais, moi j'ai toujours dit pâté en croûte d'ailleurs.
Ouais, moi je dis pâté croûte, toi. Voilà, moi je réconcilie. Voilà, donc c'était l'info qui sert à rien de la semaine, mais en vrai quand même il s'est passé plein de choses dans l'actualité, et en particulier donc cette journée de grève du 5 décembre qui restera quand même marquée parce qu'on l'avait annoncée comme importante, parce qu'il faut dire que ces dernières années c'est difficile de nous mobiliser dans la rue quand même. Il faut dire qu'on n'est pas toujours très nombreux et nombreuses. Et donc, on s'attendait quand même à quelque chose de réactif aujourd'hui. On vous rappelle que cette grève du 5 décembre et ces manifestations avaient été d'abord lancées par la SNCF et la RATP. Donc, on était dans les transports, des travailleurs et travailleuses qui sont touchés par cette réforme de la retraite, qui les impacte durement, pas plus que les autres, mais en tout cas durement. Si.
Ça dépend des régimes, ça dépend des systèmes, voilà.
Parce qu'il y a des systèmes.
Mais ils morflent quand même beaucoup.
Et puis cet appel s'est étendu parce qu'effectivement on a aussi des enseignants, profs et instituts qui ramassent aussi.
Ouais, les enseignants du public morflent aussi pas mal. En fait, si on regarde, presque tout le monde y perd. Alors même si on rappelle quand même que tout ce qu'on dit sur les retraites, c'est une supposition par rapport aux chiffres, aux différents rapports qui sont parus, puisque le texte de loi ou le truc un peu officiel qui pourrait être écrit par le Premier ministre sous la dictée de M. Macron, on l'a toujours pas, il l'annonce pour la semaine prochaine. Hein, mais donc, à partir de ce qui a déjà été communiqué et des différents rapports qu'on a pu voir sortir dans la presse, on peut déduire que tout le monde morfle, les femmes morflent beaucoup sur cette retraite, puisqu'elles n'arrivent pas. Alors celles qui font le choix d'avoir des enfants notamment risquent d'être encore plus pénalisées, alors pas encore plus pénalisées dans cette réforme là qu'elles ne l'étaient dans les réformes actuelles. Enfin, grosso modo, quasiment tout le monde. Moi, j'ai pas trouvé d'exemple où un salarié gagnait une augmentation de sa pension de retraite. Je crois que ils attaquent tout le système. Et pour quasiment avoir tout le monde, hein, grosso modo, c'est de ça dont il est question.
Même les indépendants, on en a vu quelques-uns et quelques-unes quand même dans cette manifestation, qui aussi se prennent une claque. Hein, parce que c'est vrai, on parle toujours que des personnes salariées dans un régime particulier, que ça soit après aussi des gens de la fonction publique. Mais il faudrait se souvenir aussi qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui des indépendants, qui cotisent dans des systèmes particuliers avec des caisses qui sont différentes, mais qui d'un seul coup se prennent aussi une claque.
Oui, alors, et des caisses qui sont souvent d'ailleurs bénéficiaires, où il n'y a aucun problème de rentabilité, puisqu'ils payent des cotisations suffisamment élevées, puisque c'est une des solutions pour résoudre le problème de peut-être qu'on serait en négatif en 2025, qu'il suffit d'augmenter un peu les cotisations, aussi bien d'ailleurs du côté des salariés que des employeurs, hein, puisqu'on a tous aussi peut-être à faire un effort parce que on vieillit, que la population vieillit, mais c'est pas ça dont il est question, hein. D'abord parce qu'il faudra augmenter autant, en tout cas les deux, salariés et patrons, et là les patrons veulent pas, font bloc, et comme Macron les écoute, on n'évoque jamais cette solution-là. Il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment, mais celle-là elle paraît logique. Quand on veut équilibrer, on rentre un peu plus d'argent, et voilà, parce que les chiffres sont pas catastrophiques du tout, même si on a une petite chance d'être en négatif en 2025. Donc voilà.
Alors, entendons-nous bien, hein, je pense que dans cette émission, on est bien d'accord pour qu'il y ait un système un peu unique, parce que en fait, mais nous, on part du principe qu'on aimerait.
Il est déjà unique.
Mais là, t'as plein de caisses différentes. Qu'on parte sur une caisse qui soit unique, mais qui fasse qu'il y ait vraiment.
Mais je te rappelle que toi et moi, on cotise à la retraite universelle, enfin celle qui concerne normalement quasiment tout le monde, sauf effectivement quelques régimes à part. Mais le système est déjà quasi universel. La fonction publique a un statut différent, hein, c'est historique. D'abord parce que les salaires sont quand même bien moins élevés, faut quand même le dire. Donc ça paraît, c'était une contrepartie des retraites élevées en échange d'un salaire pourri tout le long de sa carrière. Ce qui était dit aux profs, hein, il y a quelques années, notamment.
Oui, sauf que voilà, nous, notre demande, elle est plutôt d'avoir des retraites qui soient suffisamment élevées et plus égalitaires et qui fassent que, déjà, il n'y ait plus besoin de discuter pendant 4 heures pour savoir s'il faut des régimes spéciaux ou pas, puisque la retraite devrait nous permettre simplement de vivre et décemment et pas juste survivre, hein, on s'entend bien. Et ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de retraités qui ont aujourd'hui des retraites absolument misérables, ce qui veut dire qu'on ne va ne faire que mettre dans la pauvreté demain encore plus de retraités dans la pauvreté.
Même si aujourd'hui en Europe, la France est un des pays où la pauvreté est la plus faible chez les retraités, contrairement à d'autres pays qui sont plus du double de la France. parce qu'on a un système pour l'instant qui redistribue pas mal d'argent aux retraités. Donc pour l'instant le système est plutôt, même s'il n'est pas parfait, tu dis qu'il y a de la pauvreté, je crois que c'est 7% hein, de retraités en dessous du seuil de pauvreté, ça devrait être
sauf
0.
Sauf qu'à 1000 balles, tu es au-dessus du seuil de pauvreté, oui. Qui est calculé, alors il y a plusieurs manières hein, de calculer ces seuils, vous le savez, on ne va pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas quand tu es à 1000 euros par mois, tu es au-delà d'un certain seuil de pauvreté, sauf qu'à 1000 balles, quand tu as des loyers, quand tu as des trucs, des machins, que d'habites en plus hors des grandes villes, tout devient très compliqué aussi pour se déplacer, pour se soigner.
Oui, enfin, le pire étant pour les habitants de Paris, hein, puisque avec 1000 balles à Paris, on vit pas.
Tu fais rien.
Tout court. Voilà. On n'y a même pas de loyer.
Donc. Alors,
bien évidemment, il y a d'autres aides, mais oui, le système n'est pas si mauvais que ça actuellement. En fait, on a toujours une image très négative et le système n'est pas si mauvais.
C'est le patronat et le gouvernement qui veulent nous dire qu'il est pourri. Oui. Nous, on trouve que on veut l'améliorer. C'est bien ça notre différence. En tout cas, le gouvernement parle de consultation, de machin, pour éviter que nous redescendions dans la rue. On se dit que on les croit pas trop à cette consultation. Donc, pour ce qui s'est passé à Lyon, vous savez peut-être qu'à la base, un dépôt de parcours avait été fait pour qu'on aille jusqu'à Bellecour. Évidemment, fête des Lumières oblige, gilet jaune étant passé par là, tout ça, il était hors de question que ce parcours annoncé, comme avec beaucoup de militants et de militantes, de grévistes, aille en presqu'île, puisque aujourd'hui est le premier jour de la fête des Lumières, donc le parcours allongé les quais est allé jusqu'à Jean Massé. C'était déjà le premier point qu'il faut se rendre compte, c'est que évidemment les premiers parcours ont été refusés donc par la préfecture. Alors on peut dire qu'il y a eu un cortège animé, c'est vrai qu'il y avait quand même un peu tout le monde, sauf la CFDT hein, bien évidemment.
Il y avait sûrement des militants de la CFDT, mais le syndicat lui-même
n'était pas représenté.
Mais appelé à faire grève quand même.
Oui, c'est le truc.
On n'est pas une incohérence près, la CFDT.
Non. Alors, on doit dire aussi que dans cette émission, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, on soutient tous ceux et toutes celles qui ont voulu perturber la fête des Lumières, hein, avec quelques actions bien menées quand même aujourd'hui.
Et qui vont continuer,
et qui vont continuer, bien évidemment. Donc, il y a eu effectivement des gens un petit peu énervés, hein. Ils ont le droit, évidemment, bien évidemment, en tête de cortège. Donc, on a quelques panneaux publicitaires qui ont volé. On va d'ailleurs en parler de ces publicités un peu plus tard. Ça, c'est bien parce que comme il y a du tourisme à Lyon, on se doute bien que les 12 abribus cassés, les publicités cassées vont pas être réparées tout de suite dans la journée, à moins qu'ils soient préparés, qu'ils soient prêts d'ici demain à tout effacer. En tout cas, pour ce soir, c'était un petit peu raté. Bienvenue donc, si vous nous écoutez et que vous êtes tombé par hasard sur Radio Canu, le 102.2, et que vous n'êtes pas de Lyon. Donc, il y a eu des lycées bloqués dès ce matin, des universités fermées. Des rendez-vous donnés à Édouard Herriot aussi pour le personnel en grève du côté médical. Des cheminots bien présents, donc on a senti quand même qu'il y avait une certaine unité. Moi je parle jamais de convergence, je parle d'unité quand même dans cette manifestation. Je vous disais, on a vu des indépendants, des salariés d'un petit peu de partout, des syndicats quand même présents, et puis des gens qui ont quand même pas mal chanté dans les cortèges, donc c'était plutôt bien. Puis le fait qu'il y ait aussi des étudiants et des lycéens qui étaient là, c'est plutôt aussi sur Lyon une bonne chose. Pour vous donner un petit peu aussi des nouvelles, il y avait après la manifestation plusieurs assemblées générales. Donc il y a une assemblée générale de lycéens et puis d'étudiants qui s'est tenue. Et puis parallèlement, il y avait une AG de l'éducation. Donc l'éducation était en grève d'une manière assez importante aujourd'hui. Ça s'est senti, a priori. Il y avait, tu m'as dit, 70% des cantines en grève.
Oui, alors c'est pas l'éducation, non, hein, ça c'est les fonctionnaires territoriaux.
Mais c'est une répercussion quand même.
Chez les profs, on est à peu près entre 40 et 50%, suivant si c'est le primaire, le secondaire, tout ça.
C'est
là. Mais c'est plutôt une bonne mobilisation, mais qui est pas si importante ça au vu de ce que les enseignants vont prendre dans la figure.
Oui, alors je pense qu'ils en sont bien conscients, elles en sont bien conscientes, puisqu'il y a eu à peu près 450 personnes qui se sont réunies. En tout cas, on m'a dit qu'il y avait à peu près 410 personnes qui avaient participé au vote. L'idée était de savoir si jamais la grève était reconduite demain vendredi. Eh ben oui, hein. C'est bien ça. Donc demain, il y a une nouvelle grève qui est reconduite. Il y a une manifestation annoncée à 11h30 à Jean Massé pour le départ. Et puis ensuite, il y aura une nouvelle assemblée générale après cette manifestation pour la suite à donner pour la semaine prochaine, puisqu'il y a un certain nombre de grévistes et de militants et de militantes qui souhaitent reconduire la grève la semaine prochaine. Lundi, on annonce quelque chose pour mardi. Donc il y a encore des gens qui ont envie de se battre, et en particulier donc chez les cheminots et à la RATP, puisque vous avez peut-être entendu que la grève dans les trains et alors la RATP, ça nous concerne pas, mais quand même ça continue, c'est-à-dire que Paris va continuer à subir comment on appelle ça, la prise d'otage par les grévistes sur Paris, mais en tout cas du côté de la SNCF, il y avait longtemps qu'on n'avait quand même pas vu une telle grève, un TER sur 20 dans la région, un TGV sur 7.
Oui. Quasiment rien, quoi.
Bah, que dalle, hein, voilà, hein.
Après, il n'y a pas de blocage, la situation n'est pas critique sur l'économie, parce que pour moi, le seul moyen de faire pression sur un gouvernement libéral, c'est d'attaquer, c'est de bloquer l'économie.
Il y a eu les raffineries aujourd'hui.
Alors, 7 sur 8 qui étaient en grève, donc c'est très bien. J'espère que le mouvement va être conductible. Effectivement, il faut voir si on arrive on a tous en tête un idéal, qui n'est pas un idéal, mais qui est pour nous un point de référence où on a gagné, c'est les blocages de 95, hein, sous le copain du ministre actuel, qui était Monsieur Juppé, droit dans ses bottes là, et qui s'est pris les manifestants en pleine gueule, qui ont bloqué, ça a duré un petit peu longtemps et il a plié. Donc on a tous envie que ça devienne comme ce qui s'était passé en 95. Pour l'instant on en est quand même très très loin, mais il y a des frémissements qui font qui nous laissent un peu d'espoir.
Alors les raffineries, on rappellera qu'à Fézan, ça faisait un petit moment déjà qu'il y avait aussi des mouvements de grève sur le mois de novembre. À Marseille, c'est les dockers qui se sont fait bien entendre aussi, qui sont descendus aussi dans la rue, assez traditionnellement, vous me direz, mais c'est important aussi que ces corporations qui savent faire grève, hein, pardon, mais je vais le dire comme ça, qui savent militer, qui savent faire pression sur les gouvernements successifs, soient là, comme les profs. Très sincèrement, les enseignants, les instits d'une manière générale, parce que c'est aussi des gens qui peuvent arriver à faire pression. Sur Paris, il y avait donc une manifestation qui, comme à Toulouse, a démarré en après-midi. Ça s'est bien passé, apparemment. Ils ont eu le feu, hein. Ils ont eu le feu, voilà, si vous savez pas de quoi je parle, ben vous y regardez, parce que c'est un petit peu pété, mais en même temps, ça a circulé aussi. Là, j'ai entendu que du côté de la mairie de Paris, et puis du gouvernement, on accuse les syndicats, et en particulier la CGT, parce qu'il faut taper sur celui qui est le plus gros, de ne pas avoir critiqué, éjecté les Black Blocs qui étaient là, en tout cas de ne pas prendre assez parti pour le gouvernement, si j'ai bien compris. Alors là, on demande quand même l'impossible aux syndicalistes, non, il me semble, enfin je sais pas. Sur Lyon, c'était très drôle, parce que ça arrive pas quand même tout le temps, quoi. La CGT s'est fait un peu gazer aujourd'hui. Voilà, après, vraiment, y a quand même une idée de pas vouloir lâcher les choses et d'être plutôt offensif, voire carrément agressif, parce qu'à un moment, on prend quand même aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est agressif, donc il n'y a pas 36 000 manières de lui répondre. Et toi, tu avais envie de nous parler de grève et de menteurs.
Oui, alors du coup, on va continuer dans cette mobilisation du jour, avec le truc drôle de Extinction Rebellion, hein, puisque alors du coup, je sais pas si je le place là ou pas, en fait, parce que du coup, tu l'avais enlevé de mon truc là.
Ah si, tu mets là. Ouais. Si.
Donc.
Oui. Parce que pour ouvrir le sujet, on a parlé de la RATP, vous avez compris qu'on n'a pas parlé des TCL. Parce qu'il y a eu quelques grévistes. Voilà. Les TCL nous ont encore fait croire que tout était normal. Si vous regardiez bien, il n'y avait pas autant de métro que d'habitude. Moi, c'est mon avis personnel.
Oui, mais en même temps, c'était pas si perturbé que ça. Et ça, c'est la grosse déception lyonnaise, on dira, des TCL qui ont joué le jeu du gouvernement. On peut le dire. Enfin, des salariés des TCL. On notera que Extinction Rebellion, là, le mouvement à tendance écolo, radical et non violent, a décidé de profiter en fait de cette journée de grève. Alors ils avaient appelé un soutien contre les destructions sociales du gouvernement, hein. Ils étaient d'accord avec la mobilisation, mais ils sont allés plus loin et différemment. Ils ont fait un pas de côté, comme on dit, et eux ils se sont attaqués à 3600 trottinettes électriques dites en free floating. Vous savez, ces trucs qui sont balancés n'importe où sur les trottoirs, qui
en
nous emmerdent tout le temps. Free floating. Ça flotte librement, hein,
toi. Ah, c'est... tu veux dire celles qu'on jette dans le Rhône?
Ah bah alors celles-là non, parce qu'ils les ont pas, elles sont dans le Rhône. Mais voilà. Donc ils ont mis hors de service provisoirement 3600 trottinettes. C'est, vous savez, c'est assez facile à faire. Sur ces trottinettes, il y a quelque part, en général sur le verre guidon là, un petit carré avec un code barre, ou enfin un machin code là, un QR code, et avec ça et votre smartphone, vous le loguez, vous machinez le truc, bousin, tout ça, et ça marche, et vous avez le droit de prendre la trottinette. Il suffit d'un bon coup de marqueur, voire encore mieux, de la peinture en bombe, pour rendre la trottinette inutilisable tant que les personnes qui les gèrent viennent nettoyer ce petit QR code pour qu'elle soit à nouveau utilisable. Ils ont fait ça donc sur 3600 trottinettes, 2020 à Paris, 1500 à Lyon et 90 à Bordeaux. Ils sont pas très nombreux, Bordeaux,
ouais,
avec
Extinction
Rebellion. Oui. Et l'idée est double, c'est que d'abord de dire eh ben c'est un outil pour casser les grèves des transports, la trottinette en free floating, puisqu'il n'y a pas besoin de salariés, donc effectivement c'est un outil de cassage de grève, alors à Paris, pas à Lyon, puisque les TCL autocassent les grèves hein, du coup, mais c'était du coup un argument assez drôle trouvé de leur part, et puis bien évidemment on rappelle que contrairement à l'image qu'on peut avoir, que ce serait un déplacement doux et vert, les trottinettes électriques en free floating sont une catastrophe écologique, on rappelle qu'elles ont une très très faible durée, hein, quelques mois. Un coût énergétique énorme, parce qu'il faut les recharger, et c'est des camions ou des petites camionnettes qui viennent les chercher et qui les ramènent après. Quasiment pas de recyclage des batteries au lithium, et le lithium, on sait que c'est une catastrophe, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut aller le chercher, il faut détruire des régions, tout ça, on pense à la Bolivie, à d'autres endroits. Et que surtout, ces trottinettes, elles remplacent les déplacements à pied. Donc elles ont un impact, même la meilleure trottinette électrique du monde, elle a un impact négatif puisqu'elle remplace essentiellement des déplacements à pied, quasiment pas en voiture, ce qui est le pire fléau qu'on a dans les grandes villes.
Bah, c'est vrai qu'on voit pas trop de mecs ou nanas sortir de la voiture avec leur trottinette, on les voit plutôt sortir du bus ou du métro.
Voilà. Donc c'était assez drôle ce qu'ils ont fait, et c'est pas marrant de qualifier les trottinettes d'outils qui servent à briser les grèves dans les transports. J'y avais pas pensé, j'avoue.
C'est vrai que, ouais. Il y a une autre grève dont on n'a pas parlé en ce début de Canu Info. C'est la grève qui dure de Radio France.
Oui,
belle grève avec des playlists, moins bien que celle de Radio Canu quand même, mais de la playlist.
Hier, ça avait repris un petit peu. Il y avait des techniciens et techniciennes et puis quelques journalistes qui avaient repris l'antenne. Bien évidemment, les chefs, tout ça, ils sont toujours là. Demorand, tout ça, là, tous les. Et eux, ils font pas grève. C'est pas Demorand, c'est qui fait sur France Inter, c'est pas lui, le 7-9 le matin.
Il est pas parti sur Europe 1, lui.
Mais il est pas revenu, non. J'y connais rien. Bon, bref. Bon. Donc voilà, ça avait repris un peu de l'antenne hier. Et puis aujourd'hui c'est à nouveau très grève. De toute façon, quand ils prennent la parole pour faire les infos, ils font des infos à 90% anti-grève. Heureusement qu'ils interviewent un militant de la CGT au milieu, parce que sinon tout le reste de leurs informations, c'est la voix de son maître.
C'était pour nous expliquer comment fonctionne le covoiturage.
Voilà. Quand même pour aller bosser. Outil de brisage de grève.
C'était pas mal. Moi j'ai bien aimé ces reportages. Allez.
Alors mes menteurs, j'en ai plein. Et je vais en faire trois aujourd'hui au sujet des grèves. Je vais commencer par Jean-Michel Blanquer. Donc c'était mardi. Il a eu peur parce que les enseignants semblent très mobilisés. Donc il a écrit une lettre. Alors quand on dit une lettre, c'est un email aux enseignants, une lettre électronique pour tenter de calmer la colère des enseignants. Et il a dit. Je vous garantis que les pensions ne baisseront pas. Alors là, on se dit comment c'est possible. Je vous rappelle qu'actuellement, dans la fonction publique, enfin dans l'éducation publique, la retraite est calculée sur les 6 derniers mois de salaire des enseignants, donc le moment où ils gagnent le plus. La réforme fait passer à 25 ans. On va calculer, faire une moyenne des 25 dernières années. Donc il y a une énorme perte pour les enseignants. Lui, il dit, non, mais en fait, on va trouver une astuce. Vous aurez droit aux 25 ans, mais on va monter les salaires tels qu'au départ à la retraite, vous aurez la même chose que dans le système actuel, on regarde que les 6 derniers mois. Quand il dit ça, on se dit, il nous prend pour des cons. Petit exemple simple pour démontrer que ce qu'il dit, c'est un pur mensonge. Prenez un prof, alors on va prendre le cas un peu défavorable et qui est plus facile à calculer, un prof qui a 50 ans, à qui il reste 12 ans d'enseignement. Lui, il est dans la réforme. Normalement, il n'y a pas de souci puisque, pour l'instant, ça devrait concerner les gens nés à partir de 63. Ils pensent peut-être à repousser à 73, mais ils n'en sont pas sûrs. Lui, donc en 12 ans, il va falloir qu'ils arrivent à augmenter son salaire pour compenser l'écart entre les 6 derniers mois de calcul du système actuel aux 25 ans proposés par le gouvernement. C'est mathématiquement pas possible. Et d'autant plus pas possible que lorsqu'il a parlé de ça, Macron a bien redit qu'il ne comptait pas augmenter les fonctionnaires, ni les profs. Donc en fait, c'est un pur menteur, et c'est donc un pur mensonge. Vous allez me dire, c'est pas le seul, je continue. Ah, Christophe. Je vais parler de Christophe.
Ah, on l'aime bien, lui. Hein.
Tu sais, c'est le ministre qui fait tirer des flashballs dans les yeux des manifestants habillés en jaune, là. Dit le castaner. Donc lui, il a attendu hier, il a fait la suite de. Il s'est dit, putain, Blanquer, il a fait un truc, je vais essayer de faire pareil en fait. Donc il a envoyé sa petite lettre, son petit courrier. Alors lui, il envoie au keuf, il va pas envoyer à votre grand-mère retraitée, non, il envoie au keuf. Et dans cette lettre, il dit, non mais je vous garantis, vous allez garder vos droits de départ anticipés. Et vous allez garder des niveaux de retraite comparables aux pensions actuelles. Je vous rappelle les flics qui partent pas 62 ans à la retraite. Hein. Et là, on se dit, mais il se fout de notre gueule, là. Ça fait des semaines que lui, Macron, il nous répète, donc Blanquer, Castaner, tous, là, ils nous répètent que c'est un régime universel. Bah, si les flics ils peuvent partir bien avant à la retraite, c'est universel, faut m'expliquer. Ou alors ils ont inventé, ils ont changé le mot dans le dictionnaire. Il y a eu un truc. Donc bref, soit ils se foutent de notre gueule, soit c'est un mensonge, soit les deux. Je vous laisse choisir rayer la mention inutile. Et pour terminer, ça va être beaucoup plus long. Menteur, menteuse, j'ai mis au féminin, parce que là c'était des hommes. On va parler de quelque chose qui concerne les hommes et les femmes. On va parler de l'extrême droite, et notamment des Le Pen, donc père et fille. Alors on va commencer par rappeler que la fille, l'héritière, dirons-nous, du Front National, qui s'appelle Rassemblement National aujourd'hui, a dit qu'il fallait que le RN aille manifester dans les manifs contre la réforme des retraites. Bon, quand j'ai entendu ça, je suis allé vomir. Vraisemblablement, tout le monde n'est pas allé vomir, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui trouve bien que le FN manifeste à côté d'eux, à côté de la France Insoumise. Donc du coup, je suis allé vomir une deuxième fois sur le portrait de Mélenchon que j'avais pas, que je suis allé chercher sur Internet, j'ai imprimé, j'ai vomi dessus, ça m'a fait du bien. Il faut se faire du bien comme ça des fois. Donc on va rappeler un petit peu les positions, les différentes positions et les mensonges du Rassemblement National et du Front National avant sur les retraites. Donc officiellement, c'est l'engagement 52 du programme du Rassemblement National. C'est le même d'ailleurs que aujourd'hui, hein, c'est le même que le programme de la candidate Le Pen en 2017. Cet engagement dit fixer l'axe légal de la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Alors, il y a une incohérence, 60 ans et 40 annuités de cotisation, c'est compliqué dans le monde actuel où normalement, tout le monde fait des études. 80% d'une classe d'âge aujourd'hui de la population arrive au bac. Et donc, dans ces 80%, presque tous continuent les études. Ils ont tous un bac plus 2. Donc, il y a des chances qu'ils sortent de l'école vers 23, 24 ans. Et ben, quand on fait 40 ans plus 24 ans, on arrive à 64. Donc, le 60 ans et 40 annuités, ça marchait au 19e siècle et au 20e siècle quand on commençait à bosser à 14 ans. Ah oui, bah d'ailleurs, le FN est pour que les gamins aillent travailler dès 14 ans en apprentissage. Ah oui, bah peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle a compté 40 annuités, parce qu'elle trouve que le travail des enfants, c'est bien. Hein, peut-être que c'est ça. Donc voilà, donc alors, ça paraît légitime comme ça, finalement, de dire la retraite à 60 ans, elle s'est gauchisée, tout ça. Bon, on sait que c'est... Que c'est pas vrai. Je vais vous réexpliquer maintenant pourquoi c'est pas vrai ce qu'elle dit. On rappelle, au début des années 90, le Front National s'est pas mal intéressé aux retraités. Alors pas pour défendre leur retraite, mais parce qu'ils se sont rendus compte qu'une partie de leur électorat se trouvait chez les retraités. Donc ils ont essayé de les caresser dans le sens du poil. Enfin, pour celles et ceux qui avaient encore des poils. Ils ont créé un cercle national des retraités, des pré-retraités. Enfin, ils ont essayé de faire d'en récupérer le maximum, toute la bande. Alors à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen, Gold Niche, Karl Lang, tous ces affreux personnages-là. Bon, ça on n'y a jamais cru. Et d'ailleurs, quand est arrivé pas mal de réformes des retraites et des mobilisations, comme en 2003, cette magnifique réforme où on a déjà perdu des choses, menée par le grand, l'incroyable, l'honnête François Fillon, Jean-Marie Le Pen s'emporte contre les mobilisations. Il dit, je cite, qu'il en a marre contre les gréviculteurs publics qui passent de l'inégalité à la sédition. Et il déplorait à l'époque que la France s'enfonce dans l'anarchie. Alors il aimait bien inventer des mots, un gréviculteur, c'est donc les camarades de la fonction publique qui font grève. C'est ça que ça veut dire. Et la France qui s'enfonce dans l'anarchie, c'est un rêve pour nous que ça s'enfonce dans l'anarchie, mais lui, il fait partie des gens qui maîtrisent suffisamment peu le français pour croire que anarchie, ça veut dire bordel. Alors qu'anarchie, ça veut dire
l'anarchisme. On peut plutôt employer l'anarchie.
Mais bon, c'est Le Pen, s'il était intelligent, ça se saurait. Donc voilà, il avait accusé le gouvernement d'avoir reculé devant la pression de la rue, dit-il, manipulé par l'extrême gauche et la gauche. Voilà. Donc, le FN, qui, dans le principe, n'était pas tout à fait pour la réforme de Fillon à l'époque, attaquaient essentiellement les syndicalistes. Et bien évidemment, dans leur discours, elles disaient, parce que c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est les étrangers. Mais comme ils disent, l'immigration, c'est le chômage des étrangers qui s'ajoute à celui des Français aujourd'hui, et les retraités étrangers qui vont s'ajouter aux retraités français demain. Et c'est ça le problème. Donc, comme d'habitude, on accuse l'immigré. C'est un truc facile, en oubliant de dire que l'immigré qui travaille, il cotise. Il permet aujourd'hui, les immigrés qui travaillent, ils cotisent pour les retraités qui ont cotisé à l'époque, qu'ils soient français ou d'origine étrangère, ou étrangère, voilà. Enfin, je ne sais pas comment ça marchait dans les années 50 pour les étrangers. J'étais pas né. Voilà. Alors, il y a eu d'autres batailles comme ça sur les retraites. Rappelons-nous, en 2010, la réforme qui fait passer de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62, c'était... alors là, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est contre. À l'époque, Marine Le Pen, qui était vice-présidente du FN, hein, elle n'était pas encore cheftaine, dirons-nous, elle considère la réforme comme profondément injuste et totalement inefficace, donc là, on ne va pas dire le contraire, mais tout de suite, elle casse du sucre sur les syndicats, ceux qui luttent contre la réforme. Alors qu'elle a toujours voilà, un pied de chaque côté. Voilà, elle critique les syndicats qui seraient, d'après elle, complices du système. Alors, pourquoi ils sont complices du système? Et je la cite, car ils auraient accompagné l'augmentation du chômage en ne protestant pas contre l'ouverture des frontières. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est la faute des immigrés. Voilà. En fait, ils ont une espèce de discours incohérent, c'est toujours la faute des immigrés. Ça nous fait rire parce que tellement que c'est ridicule, mais c'est quand même très triste au final. Alors ça va continuer comme ça, hein. Encore récemment, en 2012, c'était il y a 7 ans, Jean-Marie Le Pen, lui, qui a toujours été un vrai libéral et qui s'est toujours assumé libéral, contrairement à Marine Le Pen qui fait semblant de pas être libéral, mais qu'il est, lui, il voulait un départ à la retraite à 65 ans, etc. Alors je vais pas continuer comme ça pendant des heures et des heures, parce que j'en aurai plein d'autres sur le FN. Le FN a vrillé dans l'apparence, il y a un peu avant la campagne de 2017, pour faire croire qu'ils étaient pour ce départ à la retraite à 40 annuités et 60 ans. On rappelle, c'est pas tout compatible pour beaucoup de gens. Et en fait, mais si on regarde encore plus loin et dans la vraie vie, le FN, qu'est-ce qu'ils font pour les travailleurs et les travailleuses? Alors, c'est pareil, je vais pas tout détailler, mais si on regarde ce qui se passe là où ils votent, et c'est très intéressant, notamment au niveau du Parlement européen, parce que chaque fois qu'il faut voter des choses qui aident les salariés, ils sont contre, et chaque fois qu'il faut voter des choses qui aident les patrons, ils sont pour. Ça nous rappelle qu'en fait, c'est profondément un parti libéral qui fait semblant de ne pas l'être, pour engranger des voix pour les gens qui seraient pas assez cultivés, pas assez intelligents, qui se feraient avoir par le discours mensonger du Front National. Quelques exemples. La défense des droits des travailleuses et l'égalité du travail est apparue au Parlement. Il y a eu 8 rapports qui sont proposés chaque année au Parlement depuis 2014. Rapports sur les inégalités des travailleuses face au monde du travail. Ils ont toujours voté contre ces rapports. Ils s'étaient opposés aussi à l'augmentation du congé maternité à 20 semaines et rémunéré à 100%. Là, ils étaient contre aussi. Voilà. Je pourrais en citer encore quelques autres. Pour dénoncer l'évasion fiscale des multinationales en France, ils sont champions. Par contre, quand il faut voter en Europe des choses qui permettent d'améliorer la transparence et qui permet notamment de lutter contre l'optimisation fiscale, eh ben ils votent contre. Ils soutiennent les patrons. Voilà. Le socle européen des droits sociaux, qui permettra aux travailleurs et aux travailleuses en Europe d'avoir à peu près un minimum de droits communs, ils votent contre. Enfin, grosso modo, dès que ça concerne les travailleurs et les travailleuses, le Front National et le RN aujourd'hui votent contre. Donc en fait, ils ont vraiment toujours ce double discours. Donc voilà, là, à part Mélenchon qui fait de la gîte propre, qui s'amuse à essayer de pactiser avec le diable, je sais pas ce qu'il cherche. On se fait pas avoir. Nous, on sait très bien que le FN est un parti contre nous, contre vous, et qui est du côté du patronat. D'ailleurs, c'est pour ça ils sont beaucoup financés par le patronat, on rappelle.
Je voulais profiter de ce petit moment où je peux reprendre la parole pour remercier Jonathan, Christophe et Rosemary qui m'ont donné des infos pour construire certains de ces sujets ce soir. Donc voilà, merci. Nous allons parler de Jamais sans toi. Vous savez, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Enfin, beaucoup. Pas assez.
Oui, bah, ils sont venus aussi dans d'autres Canu Info. Donc,
voilà, mais c'est vrai que sur Radio
Canu, un petit peu les invités.
Ouais, puis c'est des gens qui savent qu'ils ont la parole. Ils et elles auront toujours la parole sur Radio Canu. Mais c'est vrai que dans la manifestation, on m'a refait savoir qu'il se passait des choses quand même dans un certain nombre d'établissements. Et en particulier à Gilbert Drude, dont on n'a jamais parlé, hein, c'est dans le troisième.
Enfin, pas cette année, parce que l'année dernière, on en avait pas mal parlé. Ouais.
De Gilbert Drude ?
Oui.
Oui.
Il me semble.
Souvent, on parle aussi de ce qui se passe dans les écoles. Mais Gilbert Drude, cette année, on n'en a pas beaucoup parlé.
C'est un collège.
C'est un collège, oui, tout à fait. L'année dernière, on avait beaucoup parlé plutôt avec les instituts et les écoles. Donc voilà, quelqu'un m'a rappelé qu'il se passait plein de choses dans cet établissement et que depuis déjà quelques jours il y a des familles qui sont accueillies, donc il y a une occupation du collège pour mettre à l'abri un certain nombre de familles que la préfecture, l'État, les villes laissent et abandonnent. Il fait quand même extrêmement froid, comme vous avez pu vous en apercevoir aujourd'hui, surtout si vous étiez à la manifestation. Sauf que nous, on y reste quelques heures dans la rue quand vous êtes à l'extérieur ou même en squat. Avec des conditions parfois difficiles, c'est pas très agréable. Donc là, l'idée, c'est quand même toujours, on vous le rappelle, de faire en sorte que les élèves, les enfants puissent continuer à aller à l'école et que les familles puissent aussi à peu près se réchauffer, avoir à manger, avoir un toit sur la tête. Et puis de continuer à harceler les autorités pour qu'elles fassent ce que la loi les oblige normalement, c'est-à-dire à trouver des hébergements à ces familles. Donc je suis allée sur le Twitter de Jamais Sans Toi qui est toujours très à jour et d'ailleurs l'un des derniers dit Colomb, on va dormir chez toi. C'est une menace, je vous le dis, parce qu'il y en a marre. Alors il y a une liste hein, avec un tweet qui est épinglé, vous savez c'est un tweet qui reste en haut sur ce profil de Twitter qui nous rappelle qu'il y a 11 écoles, 11 établissements qui sont aujourd'hui concernés par des occupations. On a donc Victor Hugo, Michel Servet, Hepburn, c'est dans le 9e, Berthelot, Table Claudienne, Youri Gargarine, Grand Clément, Wallon, Négritel Noir, et puis donc Collège Drue et Collège Tonkin. Il y a je crois une cinquantaine de familles en tout. Ça concerne beaucoup d'enfants. Et c'est que ceux et celles qui sont dans des établissements comme ça, dans lesquels il y a une mobilisation, il faut aussi le rappeler. Alors des fois, il y a des petites avancées, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où d'un seul coup, il y a une famille qui va trouver un hébergement. Donc la mobilisation de ces parents d'élèves et de ces enseignants est extrêmement importante parce qu'elle accompagne les familles. Mais ça veut dire aussi que si nous on en parle à chaque fois, c'est parce que peut-être dans ces établissements que je viens de citer, il y en a un qui est à côté de chez vous, de ces établissements, et que peut-être que vous pouvez aussi soutenir, c'est-à-dire faire savoir ce qui se passe.
En général, ça se voit, hein, parce qu'ils ont mis des banderoles à l'extérieur, c'est le cas de rue des Tableaux Claudiennes.
Mais participer aussi, parce que il y a la nourriture qui est amenée, il y a aussi l'encadrement qui doit être amené. On va peut-être chercher à un moment permettre à ces familles de bien dormir aussi dans ces établissements. Qu'on vous rappelle que dernière, les camarades qui étaient venus nous raconter la lutte de Jamais Sans Toi, c'est aussi pour des enseignants qui sont là aussi présents parce qu'il y a la police qui tourne autour. On va en revenir et en parler tout de suite derrière. Et que c'est aussi un accompagnement d'être là la nuit, d'accompagner ces familles, de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pendant la nuit avec la police, avec l'extérieur, ou même avec des milices fachos. Hein, parce que voilà, ça aussi c'est une réalité. Hein, ces fachos qu'on a vus tout à l'heure en manif, qui étaient heureusement pas très nombreux. Et puis surtout, il y a une réaction assez vive quand même d'un certain nombre de personnes. Pas forcément très nombreux sur le coup, mais en tout cas tout de suite ça part. Et du coup, ces gens sont obligés de s'en aller. Hein. Mais en tout cas, voilà, donc si on a des instits dans les écoles qui ont quand même beaucoup d'heures hein, de cours, rappelons-le, qui se retrouvent à être là la nuit et à faire cours le lendemain. Donc c'est des gens qui s'épuisent chaque année, et chaque année on se retrouve avec encore des familles à la rue. Donc c'était important pour nous d'en reparler, parce que si jamais vous avez un établissement qui est à côté de chez vous, même si vous n'avez pas d'enfants, ou si vos enfants sont grands, ou encore trop petits pour être dans ces écoles, peut-être que vous pouvez aussi apporter votre aide d'une manière ou d'une autre, et dans ces cas-là, il faut simplement se rapprocher des établissements et puis se demander qu'est-ce qui peut s'aider et comment ça peut se passer. Voilà, j'avais juste envie de redire qu'effectivement, il y a un certain nombre de familles à la rue, qui a un Twitter qui est quand même très actif, et on y trouve quand même beaucoup d'infos. Par exemple, vendredi 6 décembre, il y a une fête, ça arrive aussi, ça s'appelle Lumière Solidaire. C'est vendredi, donc c'est une soupe des lumières. Hein. C'est l'idée, c'est que on va fêter le fait que à Michel Servet, il y a des familles qui vont être hébergées. Donc c'est l'un des dernières infos qu'on a, c'est-à-dire que on peut aussi se réunir pour dire fou, la lutte elle paye. Venons ensemble partager une soupe dont nous parlons aussi avec toi, Laurent, parce que tout ne se passe pas toujours aussi bien, malheureusement.
Et non, et c'est assez surprenant, bon, pas tant que ça, dirons-nous. Nous avons une longue pratique des traîtres socialistes, puisque c'était mardi dernier, alors là aussi, il y avait, comme tu le disais, une soupe à l'école Youri Gagarine. Oui, je sais, Youri Gagarine, quoi. Donc, un nom qui surgit du passé soviétique. C'est donc à Vaux-en-Velin. Dans cette école, une soupe solidaire était organisée. C'est un quartier qui est au Mas du Taureau, donc quartier historique des problèmes et de leur lutte, hein, et puis des difficultés à vivre à Vaux-en-Velin. C'est pas dans la partie résidentielle de Vaux-en-Velin, voilà. Donc une vingtaine de parents d'élèves et de leurs enfants étaient réunis pour cette soupe solidaire, récupérer un peu des fonds pour en venir en aide grosso modo aux élèves sans toit de l'école et puis ceux qui sont autour de l'école, de la commune, quoi, dirons-nous. Et donc voilà, l'école Youri Gagarine fait aussi office, hein, de, comme tu le disais, de lieu d'hébergement de certaines familles dont les enfants sont à la rue, bah, avec leurs parents, et du coup ils sont logés à l'école. On rappelle que l'école est donc occupée pour cette fonction-là, pour empêcher que les gens soient à la rue. C'est pas la compétence de l'école normalement de le faire, mais comme l'État le fait pas, les citoyens et notamment les enseignants de l'école se mobilisent pour faire le travail que l'État refuse de faire. Hein. C'est un vrai choix. Mais alors, il s'est passé un truc bizarre. Madame Geoffroy, Hélène de son prénom, est la maire de la commune. Est une ancienne ministre aussi, je sais pas de quoi. Elle est socialiste, tu sais, elle est membre du Parti Socialiste. Alors elle a refusé tout dialogue, elle a refusé d'apporter son aide et son soutien aux familles sans toit. Donc, grosso modo, elle s'en fout que les gens dorment dehors avec leurs enfants. Ça donne une image qui est un peu triste, hein, de cette personne. Et surtout, elle a envoyé la police municipale pour tenter d'empêcher les gens de venir à la soupe et puis les occupations de continuer d'avoir lieu. Elle a menacé les parents d'élèves de dépôt de plainte pour occupation illégale de locaux municipaux. C'est un truc de fou, hein, quand même. Les gens prennent de leur temps sur un local qui est un local qui sert à l'école pour accueillir et soutenir ces gens qui sont à la rue, qui dorment dehors avec leurs enfants. Et la mère, elle veut porter plainte contre eux. Ça donne un niveau du socialisme, des gens adhérents au Parti Socialiste, en tout cas de cette mère, Madame Geoffroy. Donc voilà, pour le moment, ça a tenu un petit peu, mais c'est juste symbolique de la catastrophe que peuvent être les politiques. Et on le comprend, hein, Gérard Collomb, lui aussi ancien socialiste et maintenant macronien, a toujours eu cette haine contre les gens à la rue, contre les étrangers, d'ailleurs tout court. Hein, il a toujours fait envoyer les flics sur les écoles qui accueillaient ces étrangers. On se rappelle, juste à côté de Canu, quand l'école était occupée, ça doit être Victor Hugo à côté, Michel Servet aussi, ils avaient eu les flics qui venaient, qui surveillaient tout le monde. Enfin voilà, il y a un problème dans ce soi-disant centre-gauche, hein, qui a des idées qui sont plutôt du côté de l'extrême droite, vraisemblablement, sur ce sujet-là en tout cas. Et c'est encore à moi de continuer, c'est ça? Ah oui, GG, donc je fais ma lyonnaiserie. T'avais rien à dire sur Gérard, toi, cette semaine? Non.
Non, je te laisse. Je te laisse t'énerver. Vas-y.
En fait,
chacun son tour.
Comme d'habitude, Gérard Collomb n'aime pas l'écologie, ça on le sait, vous me direz. Ça fait des années qu'on le fréquente. Contre notre plein gré, hein, parce que enfin, je choisis pas. En fait, c'est le collectif Plein la Vue, un collectif qui regroupe des gens, des militants et des militantes contre la publicité, qui avait demandé, qui avait interpellé, on va dire, Gérard Collomb, au sujet des fameux 9 panneaux temporaires, dont un numérique, qui était posé quai aux Gagneurs, dont le panneau numérique avait été dégradé et ensuite, on rappelle, enlevé par le gestionnaire qui doit être JC Decaux. Et du coup, suite à ça, Gérard Collomb a répondu à travers l'intermédiaire de son adjoint Jean-Yves Sécheresse, et la mairie donc informe à travers ce courrier et ce personnage que le futur règlement intercommunal de publicité qu'on attend, hein, depuis déjà un petit moment, n'envisage pas du tout d'interdire les écrans numériques publicitaires sur Lyon. Sauf dans le quartier de la Presqu'île, grosso modo de Perrache jusqu'au boulevard de la Croix-Rousse. Donc là, c'est la grosse déception. On rappelle, hein, le caractère nuisible de ces panneaux. Alors d'abord, en fabrication, ils nécessitent énormément d'énergie. en utilisation, contrairement à un panneau publicitaire classique où une fois que l'affiche est imprimée, elle arrête de polluer. Là, le panneau pollue en permanence avec l'énergie qu'il consomme. En plus, il est clair et on a beaucoup trop de pollution, on rappelle, lumineuse dans les grandes villes, notamment à Lyon. Et ensuite, on rappelle que, en plus, c'est des choses qui poussent à la consommation et la surconsommation et la consommation tout court détruisent la planète. Donc ça, Colomb, même s'il lui fait quelques remarques, il s'en fout totalement dans les faits, et il se dit non, moi aujourd'hui je protège 9% de la population de la commune, c'est-à-dire donc un bout du deuxième, un bout du premier, et le reste, on va vous autoriser à installer ces panneaux, ces grands écrans numériques, publicitaires, voilà. Alors c'est triste mais pas surprenant, Gérard Collomb est un anti-écolo historique, est un pro-libéral, ce qui est compatible avec l'anti-écologie forcément, depuis le début aussi, il n'a jamais vraiment été un homme de gauche, hein, Gérard Collomb. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir son attitude discriminatoire envers les Lyonnais, c'est-à-dire qu'il va protéger la presqu'île commerciale et les pentes de la Croix-Rousse. Pourquoi il protège ces quartiers-là? Parce que c'est là où vont aller les touristes. Et donc, il a envie de préserver cette zone, qu'au niveau architectural, ce soit toujours joli, que ces écrans viennent pas abîmer l'aspect esthétique de la ville, et il protège cette partie-là. Vous me direz, il protège pas Saint-Jean. Mais il a pas besoin, puisque Saint-Jean est protégé au patrimoine de l'UNESCO, et on n'a pas le droit de foutre des écrans publicitaires, même des panneaux de pub partout. Donc, il agrandit juste ce qui est la protection des zones qui sont pas prévues dans la protection du patrimoine, juste pour faire plaisir aux touristes, et la population lyonnaise, il s'en fout. On rappelle qu'il y avait une consultation lancée toujours par le collectif Plein la Vue. Êtes-vous pour ou contre l'arrivée des panneaux, des écrans à la place de publicité papier? Et 97% des personnes qui avaient répondu étaient contre l'arrivée de ces panneaux numériques. Vraisemblablement, Gérard Collomb s'en fout, donc voilà, on est content. Qu'est-ce que j'avais d'autre?
Je peux faire deux remarques sur la politique, même si je vais les faire très vite parce qu'on approche quand même de la fin. Juste pour dire que Monsieur Capenekian a lancé sa campagne pour la mairie de Lyon et qu'il annonce tout le contraire de Gérard puisqu'il veut faire du vert et du vert. Ça nous fait marrer. Alors moi, ce qui m'a surtout fait marrer, tu sais, c'est quoi?
Non.
C'est qu'il a fait ça dans un Inkasi. Et je sais pas si vous vous souvenez à l'époque quand Gérard il a gagné. À l'époque,
il avait fêté ça au Ninkasi. Le premier, l'historique, le chaos à.
Enfin, ce qui n'était pas le chaos.
Enfin, le Ninkasi à côté du chaos à Gerland.
Ses amis, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Capenekian? Il va se mettre dans un Ninkasi. On sent quand même que là, il y a l'idée de faire chier le monde. Hein, ouais. Excusez-moi.
Enfin, d'embêter son ancien camarade.
Voilà, c'est ce que veut dire faire chier le monde. Voilà. Et puis, qu'à côté de ça, on a M. Kimmelfeld, David, donc l'ami de Capenekian, ancien ami de Gérard Collomb, président de la métropole de Lyon, qui voudrait bien la garder, qui donc a annoncé dans un communiqué mettre en place la rupture du contrat pour le Rhône Express qui avait été annoncé. Mmh. Vous savez, là c'est quand même un coup de campagne hein, puisqu'il a annoncé donc la fin de l'anneau des sciences. Donc on a des gens qui se positionnent écologie verte.
Alors ils sont pas du tout écolos ces gens.
Je voulais pas mettre là-dessus, mais
le truc c'est que ils se positionnent en opposition à Gérard Collomb.
Ouais.
Alors chaque fois que Gérard Collomb dit un truc anti-écolo, parce qu'il en dit tout le temps, il défend toujours ce périph extérieur, là, l'anneau des sciences là, qui va détruire une partie de ce bout de l'Ouest lyonnais. Et ben eux, ils se mettent contre et ils servent de l'argument écolo. Ça nous fait rire quand même du coup parce qu'ils sont pas crédibles en écolo. Hein, ça, vous êtes sûr?
On en rediscutera de toute façon de tout ça. Ouais. On prendra plus de temps. Allez, il nous reste.
Attends, j'ai une demi seconde du coup pour
finir.
De dire voilà, on parle de la fête des lumières et on va avoir des hordes de zombies qui vont s'approcher des points lumineux, un peu comme les insectes qui sont attirés par la lumière.
C'est vrai.
Un peu ça. Et ça va pourrir la vie des habitants, mais ça c'est pareil, on s'en fout. Mais le plus drôle, c'est qu'on est dans une zone, on attaque les pollutions en particules depuis aujourd'hui. Et la préfecture, donc le bras droit de l'État, qui fait copain-copain avec Gérard Collomb et avec les organisateurs de la fête commerciale des Lumières, il a osé dire, le préfet, alors oui, il faudrait faire des efforts, mais bon, je donnerai aux forces de l'ordre de pas verbaliser les véhicules qui auraient pas la bonne vignette, puisque peut-être demain il y aura une autorisation de circuler que pour certaines vignettes. Bon, du coup, ça sert à rien. Le préfet est à nouveau complice des morts engendrées par la pollution, mais ça fait des années qu'ils le sont, ces préfets. Allez, on parle cinéma.
Tu veux pas parler de tes anti-vaccins là, parce que
moi, ouais, c'est un truc horrible.
Je te laisse une minute.
De toute façon, j'ai une minute trente, ça va être vite fait. Tout. On est aux îles Samoa, en Polynésie occidentale, au Pacifique Sud. Ces îles sont partagées en deux. Je crois que les États-Unis en occupent une partie, de l'autre côté, c'est un État libre. Ils sont chopés un touriste qui n'était pas vacciné contre la rougeole, un touriste néo-zélandais, pas vacciné et porteur de la maladie. Il est arrivé début octobre. Ils ont fait une grosse enquête pour ça. Aujourd'hui, 60 morts. Donc ce mec, il est arrivé, je crois que c'est un homme, il est arrivé, il a tué 60 personnes avec sa rougeole. C'est horrible. Alors, bien évidemment, lui, il n'était pas vacciné et porteur de la maladie, et aux îles Samoa, ils n'avaient pas les moyens de vacciner la population. Du coup, une grosse campagne a été lancée, ils se sont fait aider par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui devait avoir un peu mauvaise conscience d'avoir des anti-vax qui se baladent, la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Norvège, le Japon, les États-Unis et l'ONU, et ils lancent une grosse campagne pour vacciner l'intégralité de la population, pour sauver les gens, parce que 60 morts en quelques semaines, c'est quand même énorme, juste à cause d'un imbécile non vacciné qui amène la rougeole chez les autres. Voilà.
Alors j'ai l'air très autoritaire comme ça, parce que j'ai l'air de te couper l'air sous le pied, mais c'est parce que j'ai vraiment envie qu'on ait du temps pour parler ce film d'Elia Souleymane que nous sommes allés voir hier, qui s'appelle It Must Be Heaven. Heaven, on se rappelle, ça veut dire le paradis. Alors Elia Souleymane, en fait, il n'a pas fait beaucoup de films de long métrage, il en a fait 4, le dernier il a une dizaine d'années, et c'est vrai que je crois qu'il faut que je revoie tous ses films parce que je les ai tous un peu oubliés. Donc ça faisait plaisir de revoir Elia Souleymane au cinéma. Et puis c'est un film qu'on aime beaucoup, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ce film, comme ça je vous raconte la vérité tout de suite, on va pas attendre la fin. Elia Souleymane, c'est un homme, un réalisateur, un artiste qui travaille sur le burlesque, l'absurdité, sur la bêtise humaine, qui a une façon particulière de traiter l'image aussi, puisqu'on a, il faut pas voir ça sur un téléphone portable, ou même sur un ordinateur portable.
Non, c'est parce des plans fixes.
C'est
dans lequel il est en général au centre de l'image les trois quarts du temps, et il se passe des choses.
Et puis il y a du détail, il y a plein de choses dans l'image, donc déjà esthétiquement c'est très beau. Il a toujours une BO, une musique qui est toujours, je trouve, aussi très très belle, qui est très très bien placée. C'est, en plus il joue lui-même, hein, Elia Souleymane.
Oui, puis il se met en scène, il cherche des gens pour financer son film.
Parce que j'y ai vu, mais je crois que c'est un film qui a plein de lectures, donc c'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui souvent on compare à Keaton, vous savez, et puis on dit qu'il s'est un peu un tati dans sa manière
alors,
de filmer.
Ça fait très quand même Monsieur Hulot quand vous regardez le personnage de Tati, dans le fait que c'est quand vous regardez le personnage de Tati, on a l'impression qu'il danse en fait, que tout est minuté, que tout se passe exactement comme c'est prévu, que il y a, et ben c'est exactement ça qui passe. D'ailleurs, c'est vraiment accentué dans les premières scènes
alors,
du film.
C'est effectivement, j'essaye de suivre ma logique, mais avec toi, quand on parle cinéma, je sais que c'est toujours compliqué. Moi, je dois dire qu'au bout de 3 minutes, j'ai souri. 3 minutes de film. 5 minutes, je rigolais. Il faut dire que la scène d'ouverture est absolument somptueuse d'absurdité et de bêtises humaines. Il explique qu'Elia Souleymane, dans une petite présentation qu'on trouve sur un site de cinéma professionnel, qu'il veut montrer le monde comme s'il était un microcosme de la Palestine, avec cette question, c'est où vivre ? Où puis-je vivre et est-ce que c'est mieux ailleurs ?
Ouais, parce qu'on rappelle, hein, il est palestinien, il habite Nazareth. D'ailleurs, cette scène d'ouverture se passe à la Nazareth, c'est un truc de fou.
Et c'est le seul moment où on parle de religion et on voit de la religion dans ce film. Et
on voit les chrétiens du coup.
Puisque effectivement, il fait partie de la communauté chrétienne, Elia Souleymane, puisque c'est une région du monde où on parle beaucoup par petites communautés, hein, par bout. Ça vous définit même quand vous le voulez pas. Et il se place un petit peu carrément en observateur du monde. Et puis il veut aussi nous renvoyer une image, c'est parce qu'on a tous une image de la Palestine qui est une image du conflit, une image de la guerre, une image du désespoir. Et donc il nous renvoie notre propre image en lui-même nous présentant un Paris fantasmé ou un Paris comme peuvent l'imaginer certaines personnes, avec des femmes magnifiques,
avec des jolies filles sexy.
On se demande pourquoi il les regarde. Voilà.
Au début, on se dit, mais c'est.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Mais c'est super sexiste et tout. Puis en fait, non. C'est son rêve du
c'est
Paris.
C'est une manière
d'imager, ouais.
Il fait pareil.
Il fait pareil à New York, du coup. Alors pas sur le même sujet.
Sur un autre sujet qu'on vous laissera découvrir.
Ouais.
Il se balade comme ça. Il cherche un endroit où aller. Et puis effectivement, il va rencontrer plusieurs producteurs pour son film. Et à chaque fois, on lui renvoie quand même aussi cette idée, ce qu'on renvoie à beaucoup de Palestiniens, de Palestiniennes, et en particulier aux artistes, c'est qu'à chaque fois, ils doivent parler du conflit et ne doivent parler que de ça et ne pas présenter autre chose. Et Elia Souleymane, lui, il nous renvoie notre autre chose, c'est-à-dire qu'il vient dans un Paris où, en plus, il filme quand même des plans absolument magnifiques d'un Paris désert.
Mais New York désert aussi.
Mais en nous renvoyant aussi une image, finalement, avec des militaires, de la police. il nous montre aussi une répression. Il nous montre une réalité de la France qui a des militaires dans ses rues. Et c'est-à-dire que...
On les voit pas mal, hein, quand même.
Oui,
ça l'a marqué la France, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Et nous renvoie voilà cette image-là, alors que lui a envie de nous montrer une Palestine qui danse, qui rit et qui s'amuse aussi, parce qu'il y a une jeunesse qui est étudiante, hein, en Cisjordanie, qui ne pense pas qu'envoyer des roquettes sur Israël. Donc il a envie de nous raconter cette réalité, mais c'est difficile pour les Palestiniens et les Palestiniennes, parce qu'on leur renvoie toujours en face d'eux ce conflit qui existe, on va pas le renier, il y a des checkpoints de partout en Cisjordanie, il y a Gaza de l'autre côté, mais en même temps, il y a aussi des gens qui vivent, qui s'aiment, qui font l'amour, qui font des enfants, qui se marient, qui font des études, qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui meurent, qui sont malades, qui sont fatigués, qui vieillissent, et puis qui dansent, qui chantent et qui rient. Et ça, Elias Souleymane, c'est aussi quelque chose qu'il a envie de nous montrer. Et puis voilà, et tout ça donc il va nous montrer à travers donc du passage de la Palestine de Nazareth avec une absurdité magnifique autour de Citronnier jusqu'à Paris où on nous montre aussi des plans absolument magnifiques, ça se passe pendant le 14 juillet.
Censé être le 14 juillet. On n'a pas de preuve qu'il a tourné le 14 juillet.
C'est pas un documentaire. Oui, ce qu'il nous fait, c'est un film de fiction, c'est pas un documentaire. Donc ça se passe au 14 juillet avec effectivement un ramasse-crotte dont le est absolument magnifique de bêtises et d'absurdité. En plus, la mascrotte, en France, ça nous parle parce que ça avait fait quand même toute une histoire il y a quelques années. Quand il part ensuite en Amérique, parce que c'est un peu ça quand même aussi l'idée, c'est quand même, voilà, c'est incroyable de rencontrer un Palestinien. Bon, nous, le Carafat, ça nous a fait beaucoup rire parce que ça montre aussi la méconnaissance de l'autre côté de l'Atlantique de ce qui peut se passer dans cette région du monde. Et voilà, Yasser Arafat se retrouve un petit peu, comme dirais-je, écorché dans son nom. Mais bon, il n'est plus là.
Par un chauffeur de taxi.
Voilà, mais c'est très drôle. Donc on a à la fois toute une délicatesse du burlesque, vraiment. Hein, c'est là où on retrouve peut-être effectivement Keaton, moi je trouve, vraiment. Et puis,
à des moments, c'est presque surréaliste.
Hein. Et puis, vraiment du détail, c'est-à-dire quand vous avez un tank qui passe et qu'en même temps il se tient en place de la victoire, c'est du détail de l'image. Parce que vous êtes attiré par le tank, c'est absurde ces tanks-là. Mais en même temps, il y a ce petit détail, hein, je vous dirai pas où dans l'image. Mais c'est, toutes ces scènes sont comme ça et puis c'est très beau, c'est filmé. Il prend beaucoup de temps à poser sa caméra. Il filme. Tout est chorégraphié. Il l'explique.
Ouais, c'est tout.
Donc,
c'est
un travail préparatoire absolument incroyable.
Et c'est toujours des plans fixes, en fait, quasiment.
Oui, quelques panoramiques, hein, quand même.
Et il ne parle quasiment jamais.
Non.
Alors,
dira un seul mot et vous allez vous le repérer quand vous irez voir
et
le film.
Et d'autres parlent un petit peu dans le film, mais pas énormément, mais un petit peu. Par contre, lui, voilà, il va dire juste un petit mot à un moment. C'est assez incroyable. Hein,
c'est un film qui est vraiment à part. Moi, je trouve surtout que c'est une très très belle déclaration d'amour à la Palestine.
Parce que c'est ça, au final.
À son pays, et que c'est ça l'idée, c'est de parler aussi de son pays. D'un beau pays. Si vous avez déjà été dans cette région du monde, vous pouvez avoir que de l'affection.
Oui, enfin, vous n'avez pas que de l'affection.
Non, mais
vous avez aussi.
Vous pouvez avoir que de l'affection.
Vous êtes énervé, vous avez de la haine, vous avez tout ce que vous voulez.
Ouais, mais vous avez une affection pour des gens comme Elias Souleymane qui aussi nous parlent de leur pays différemment. Et puis, avec cette passion et cet amour, moi, je trouve ça très touchant. Je le trouve très touchant dans son personnage. Je trouve ce qu'il nous montre est très touchant, très parlant. Et puis, c'est un très beau film esthétique. Et donc, il faut absolument aller voir ce film.
Ouais, voilà, c'est une petite merveille. Voilà, un truc incroyable qui sort au cinéma, qui est sorti donc mercredi, hier, avant-hier, on est quel jour? Jeudi.
C'est le Calimafo du jeudi, donc tu sais, t'as pas changé d'équipe, hein, mon ami.
Voilà, It Must Be Heaven.
Voilà, It Must Be Heaven, donc d'Elias Souleymane, à vous précipiter, s'il vous plaît, et à ne pas voir sur un écran tout petit.
Ah bah non, là, ça peut marcher qu'au ciné.
Bon, on va vous laisser là pour ce soir.
Il nous reste deux minutes juste pour dire, si je vais parler cinéma pendant une minute, à moins que tu aies quelque chose à dire.
Allez, vas-y.
Non, il y a le film de Guédiguian là, qui s'appelle Gloria Mundi, qui est sorti, qui est c'est le film le plus Ken Lochien, moi je trouve qu'il est fait. Donc on suit une famille dysfonctionnelle, brimée par le capitalisme et par le libéralisme. C'est peut-être c'est moins bon d'ailleurs. Moi j'ai trouvé trop long, trop plan-plan, même s'il y a des trucs qui nous font toujours plaisir. Voilà, le méchant libéral, tout ça. Mais Voilà, et un peu largement en dessous, en tout cas, de l'avant-dernier, là, qui était
Nous, on
n'a
pas parlé dans cette émission des Misérables, Les Misérables, le film que nous avons
beaucoup
aimé aussi.
Ouais.
Ou Le Traître, très beau film italien aussi, qui est toujours à l'affiche.
Il y a plein de choses au cinéma.
Voilà, il y a plein de choses. Pour vous dire.
Les Misérables, on est beaucoup à l'avoir vu, du coup.
Ouais, mais.
Parce que ça marche super bien.
Voilà, donc pour vous dire aussi qu'on n'est pas là la semaine prochaine, puisqu'on va aller vérifier si 88% des hommes sont homosexuels, comme le dit Philippe Catherine. Hein. Voilà, donc c'est notre excuse de ne pas être là la semaine prochaine, jeudi 12 décembre, mais on sera là après.
Ouais, on va voir Philippe Catherine, c'est ça en fait.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais.
Voilà.
Voilà, si vous avez jamais entendu ce morceau, 88%.
Mais moi je vous conseille plutôt Petit Panda.
Oui,
c'est
oui.
Un morceau, l'air de rien, extrêmement politique.
Voilà. Voilà. Ah, il est fort pour faire passer des trucs politiques avec des trucs qui ont l'air complètement débiles.
On va donc laisser la place maintenant à la petite cuillère, parce que je pense que l'équipe est là et qu'en plus, ils sont plein dans cette équipe ce soir.
Ouais, il nous reste 30 secondes pour vous dire au revoir.
Eh ben, on vous dit au revoir. Oh, ça a été vite de dire au revoir,
c'est rapide en fait.
Ciao.
Allez, à dans 15 jours alors.
Ouais, ciao.
Bye bye.